Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a aimé plusieurs films récemment dont on aurait pu parler aujourd'hui dans cette bulle cannoise. On aurait pu parler d'Eureka, de Lisandro Alonso, qu'on attendait beaucoup et qui était présenté à Cannes Première et qui nous a beaucoup plu. En tout cas, c'est mon cas, Josué aussi. Mais en tout cas, pour moi, c'est le plus beau film que j'ai vu au festival pour l'instant. Et on aurait pu aussi parler de May December, mais je ne l'ai pas encore vu. Le film de Todd Haynes que Josué a plutôt aimé, alors que tu n'aimes pas forcément toujours Todd Haynes. Moi, je ne l'ai pas encore vu, et Corentin non plus. Mais voilà, c'était impossible de passer à côté de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui était présenté hors compétition et que nous avons vu hier. Josué, tu es... plus scorsésien que moi, en tout cas tu as une histoire cinéphile un peu plus connectée à Scorsese que moi, qui est un cinéaste dont j'ai encore des lacunes en fait avec l'œuvre de Scorsese, et il y a peu de films que j'adore réellement, même s'il y a beaucoup de films que j'estime, et celui-ci en fait partie. Moi j'ai plutôt aimé, mais qu'en as-tu pensé, Josué?
Oui, ça s'étend. Moi j'ai un rapport aussi un peu particulier à Scorsese, c'est-à-dire c'est un cinéaste dont j'ai vu, je crois, tous les films, et dont j'aime à peu près tous les films, sans en adorer beaucoup, voire presque aucun. C'est-à-dire je ne suis pas sûr que ce soit un cinéaste qui ait fait énormément de chefs-d'œuvre, mais en revanche dont à peu près tous les films me passionnent, en gros, pour résumer. Alors c'est intéressant parce que la revue est un peu coupée en deux hein, sur le Scorsese. On a déjà publié un texte mitigé, pour pas dire négatif, que j'ai signé, et Corentin Lay aussi, hein, qui aime beaucoup Scorsese et comme moi s'est déçu du film, tandis que toi et Chloé Cavillier au contraire le défendaient un peu. Donc voilà, peut-être qu'on va se battre un peu aujourd'hui. Non, moi je trouve que c'est vraiment un des Scorsese les plus faibles, pour une raison toute simple. C'est moins tant le côté répétitif, même s'il est vrai que en fin de compte ce récit là de Scorsese on l'a déjà vu hein, c'est une espèce de variation quelque part sur Les Affranchis, avec un personnage qui serait peut-être un peu plus idiot que celui de Ray Liotta au sein des Affranchis, donc joué par Leonardo DiCaprio, et qui est un vrai personnage d'idiot hein, assez ambivalent, assez ambigu, et on se demande pendant une longue partie du film et même à l'issue s'il ne serait pas dans une forme de déni par rapport à ses actions tout au long de la narration. Mais c'est un film que je trouve très routinier, voire même dans ses deux premières heures assez académique, dans cette manière de brasser à la fois quelque chose qui serait d'ordre de la fraise et de la machination à la fois criminelle et scénaristique, dans une logique un peu de rise and fall, même si bon, il y aurait à moitié un rise et à moitié un fall hein, par le biais de petites variations scénaristiques dont Scorsese a le secret. Mais surtout, c'est intéressant, je crois qu'on s'est tous fait un peu la réflexion spontanément en sortant hier, c'est que il n'y a pas une scène qui se détache. Et alors il y a des rumeurs comme quoi le film se serait beaucoup trouvé au montage, qu'il a aussi changé un peu d'axe au cours du scénario. C'est-à-dire qu'à l'origine le film se centrait sur le personnage de Jesse Plemons, qui joue donc l'agent du FBI, qui intervient au bout de 2 heures et qui commence à enquêter sur la disparition et le meurtre de différents Indiens. Et on sait que DiCaprio, par exemple, devait jouer ce rôle à l'origine, que ça a changé au cours de la composition du scénario. Et disons que ce côté film qui se trouve au montage, moi j'ai l'impression, en tout cas, ça se sent dans le film. Hein. C'est-à-dire que toutes les scènes durent à peu près le même temps, il n'y en a aucune qui se détache. J'ai vraiment l'impression que Scorsese veut raconter une histoire. En plus, hein, il a donné une interview il y a quelques jours, où il parle beaucoup de ça, où il dit qu'il est vieux et qu'il a certaines histoires qu'il souhaite raconter. Et moi j'avoue que ça me déçoit un peu, parce qu'il y a un nœud peut-être qu'il faudrait décrire sur Scorsese. C'est-à-dire que c'est à la fois un cinéaste du style et de la mise en scène. C'est-à-dire qu'il y aurait un style Scorsese évident, un peu flamboyant, fait de ralentis, de surgissements musicaux. Il y en a un d'ailleurs au début avec le gisement de pétrole qui ouvre le film. Et en même temps, ça peut être un cinéaste très précis sur des films parfois qui sont moins aimés. Je pense notamment à Silence, hein, moi je trouve que l'un de ses films les plus précis ces dernières années, mais qui est un film pour le coup qui n'est pas très aimé. Et en même temps, moi, j'aurais pu partir de cet axe-là, mais j'ai l'impression que ce film-là montre aussi que Scorsese, quelque part, parmi ses contemporains du Nouvel Hollywood, est en fait le cinéaste le plus attaché au scénario. Et là, pour le coup, ça me semble vraiment être de bout en bout un film de scénario, alors certes extrêmement bien mené, avec un art du storytelling, encore que je trouve qu'il y a un peu des trouées et des ellipses un peu étonnantes dans la première partie, notamment sur la relation qui lie le personnage du Caprio et de Lily Gladstone. Mais vraiment, moi je considère que c'est l'un des films formellement les moins intéressants de Scorsese, même si évidemment il y a une forme de savoir-faire et de maîtrise narrative qui font que bon voilà, c'est quand même 3h20 qui défile à la vitesse de la lumière, mais je trouve ça beaucoup trop limité par rapport à ce que Scorsese peut faire, notamment ces dernières années. Hein. Moi, je trouve vraiment Silence et The Irishman sont des films supérieurs à celui-là.
Oui, mais il faut dire en fait que c'est pas vraiment le film qu'on attendait de Scorsese. À savoir, enfin, on a, voilà, c'est un film dont on connaît l'existence de ce projet depuis un moment. Il y avait ce gag qui consistait à reprendre éternellement la même image de promotion de Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio attablés côte à côte. Et moi, c'est vrai, j'avais un peu l'impression que voilà, Scorsese, ce vieux cinéaste cinéphile de 80 ans, allait faire son western. Voilà, j'avais un peu l'impression, c'est peut-être un réflexe un peu cinéphile du vieux cinéaste qui retourne un peu... sa cinéphilie un peu primaire et qui quelque part allait rendre les armes avec peut-être, je sais pas, j'attendais quelque chose de l'ordre de la naïveté peut-être aussi avec ces histoires de Flower Moon, voilà ce titre un peu poétique, alors que finalement effectivement ce qui est étonnant dans le film, c'est que au fur et à mesure de son avancée, il retombe sur les rails du récit scorsésien assez classique et surtout des méthodes scorsésiennes classiques pour effectivement sur un plan narratif. Et c'est le plan. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est un film de récit plus que de scénario. Effectivement, Scorsese est toujours quand même une coudée au-dessus que la plupart de ses contemporains. Et on peut prendre l'exemple de tous ces micro-scènes, ces micro-plans qui sont intégrés dans le montage et qui font comme ça, comme des saccades de violence notamment, qui sont toujours très étonnantes et qui sont souvent justement ces plans courts, les plans les plus... investis, j'ai l'impression, du film, notamment en fait tous les différents meurtres du film qui sont traités avec une espèce de détachement sordide que je trouve assez intéressant par rapport au sujet, avec toujours cette idée, une idée d'angle un peu étrange pour voir un meurtre, une façon comme ça de déréaliser un peu ce qui se passe pour rendre ça encore plus choquant quelque part, puisque... Ce qui est assez étonnant, en tout cas original avec ce film-là, c'est que tu as dit, c'était un peu un Rise and Fall sans vraiment de rise, sans vraiment de fall. C'est aussi un film de gangsters, mais sans qu'on se rende compte que c'est vraiment des gangsters. On a l'impression qu'ils agissent un peu au fur et à mesure, sans avoir vraiment de plan préétabli.
Disons qu'il y a un peu un flottement, c'est vrai, du récit à cet endroit-là, et qui est incarné notamment... à mon avis par le meilleur personnage du film, même si on pourrait discuter des acteurs, c'est peut-être Lily Gladstone qui se détache davantage, mais en tout cas le personnage qui se détache le plus à mon avis, c'est celui de De Niro, qui a un espèce de pater familias un peu serpentin, quelque chose de très reptilien, d'une espèce de bienveillance tout à fait artificielle. Et alors on se posait la question de savoir,
et la première scène de sa discussion avec Leonardo DiCaprio, qui joue sur une espèce de fausse amitié, de fausse familiarité, avec ce gag, tu peux m'appeler mon oncle, ou si tu préfères, tu peux m'appeler King.
Il y a une vraie, voilà. Le roi des collines. Et c'est vrai que c'est un personnage qui permet justement de distiller un peu d'humour et peut-être un peu de variation au sein d'un récit qui est quand même peu monolithique. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis sur la violence, parce qu'en fait, on reviendrait un peu à l'ADN de Scorsese, c'est-à-dire The Big Shave, c'est-à-dire de simplement filmer des coupes, le surgissement du sang. Ce qui est étonnant, c'est vrai, c'est qu'on a l'impression que la nouveauté du film se joue vraiment, mais sur un plan du sujet. Alors bon, moi, je peux pas trop en dire, mais c'est vrai qu'il y a un moment où Scorsese intervient, on dira pas comment, sur ce plan-là, du moins, voilà, met peut-être l'accent sur le fait que, en fin de compte, il y aurait presque un devoir de mémoire à accomplir par le truchement de ce récit-là. Et je dois dire que ce virage-là de Scorsese en conteur est assez ambivalent, parce qu'il raconte aussi quelque chose peut-être de la place que Scorsese a pris à l'échelle de la cinéphilie, c'est-à-dire que Scorsese est un peu devenu une espèce d'icône, comme tardivement les devenu Agnès Varda, de certaines manières, c'est-à-dire une icône cinéphile. Il a un peu comme Tarantino. C'est-à-dire, c'est devenu un peu la blague, j'ai l'impression. Maintenant, il y a 10 ou 15 films par an qui sortent, et on apprend que Scorsese a beaucoup aimé ou a félicité la personne. Il fait même maintenant des masterclass. Il a animé une conversation avec Ari Aster à l'issue d'une projection organisée par A24 de Boys Afraid. Alors peut-être, c'est intéressant peut-être depuis ses déclarations sur Marvel, mais en tout cas, il y aurait cette idée que Scorsese est en train de devenir le père Castor de la cinéphilie, le vieux conteur qui nous raconte quelque chose. Et je trouve que le film, un peu cruellement, renforce ce statut-là. Mais alors, le metteur en scène, en revanche, est presque, c'est un peu dur à dire, mais presque aux abonnés absents. Vraiment, les deux premières heures, on a noté un ou deux plans, un enfant qui regarde dans le creux d'une hutte. Enfin, il y a vraiment très peu de choses qui se distinguent.
Oui, c'est justement un plan en split screen très mystérieux. On ne sait pas exactement comment il est fait.
C'est vrai qu'il est très
bizarre. Et c'est un peu un faux indice sur la mise en scène qui va suivre, qui est un peu plus ample.
Moi, je trouve
plus
vraiment
ample, très...
calé au scénario, ça ne détache jamais. Et alors, ça s'éveille un peu quand le FBI arrive, parce qu'il y a une logique du montage, de dynamique contraire qui s'articule. Il y a aussi une scène de prison que je trouve plutôt pas mal, où là, voilà, il y a des logiques de champ contre champ qui commencent à se dessiner, des rapports de lumière, des rapports de composition. Mais en dehors de ça, les deux premières heures, en termes de mise en scène, il y a un peu rien à signaler, quoi. Je trouve ça triste.
Après, je dois dire que je suis pas tout à fait d'accord sur cette idée que finalement la façon dont Scorsese intervient dans le film, dont on ne dévoilera pas totalement la scène, mais a quelque chose à voir avec une espèce de déférence au sujet, puisque pour moi, le sujet est quand même moins le fait historique ici qu'une espèce de centre névralgique extrêmement bizarre, à savoir que le personnage de Leonardo DiCaprio, qui est donc un personnage plutôt d'idiot, est amoureux de quelqu'un dont il ne peut pas tomber amoureux, enfin, dont il ne devrait pas tomber amoureux, j'essaye de ne pas trop en dire, et qu'en fait, il agit comme si cet amour n'existait pas, alors qu'il existe, et il y a une espèce comme ça de dilemme, mais qui n'est jamais résolu, c'est-à-dire qu'il ne va jamais aller contre le dilemme, et qui fait que le film scénaristiquement évolue de façon extrêmement étrange, et pour moi, est quand même assez, sur le point de vue de la mise en scène, je suis assez d'accord avec toi, enfin je suis pas totalement d'accord avec toi dans le sens où je trouve quand même le film assez bien mis en scène, même au début, notamment toutes les arrivées de train qui rejouent un peu, il y a une espèce comme ça d'enchaînement d'arrivées de train dans les deux premières heures, avec à chaque fois ce traditionnel travelling aérien qui arrive sur un personnage comme ça, comme si le récit ne cessait de recommencer. Enfin, je trouve qu'il y a des idées, mais surtout c'est vrai que c'est un film qui, plus que d'autres Scorsese, j'ai l'impression, même si c'était déjà une question au centre de The Irishman, bien sûr, s'intéresse vraiment aux acteurs et à leur... oui, bien, mais d'une façon que je trouve assez passionnante. Il y a quand même un côté
dans le casting, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord que Lily Gladstone est géniale et je pense qu'il faut remonter peut-être à Sharon Stone dans Casino pour trouver du moins une présence féminine plus qu'un personnage, parce que c'est quand même quelqu'un qui est mis sous la touche pendant un long moment, mais du moins un personnage... une interprète aussi forte... mais dans le même temps, alors tu vois, moi je salue De Niro, DiCaprio, en revanche, moi ça fait quelques films que je le trouve, désolé de le dire, un peu sur la pente descendante. Et là, je pense que c'est sa moins bonne participation, je pense, avec Scorsese.
Moi j'ai une relation un peu torturée à DiCaprio, qui est un acteur que je peux trouver à la fois génial et vraiment cabotin.
Je suis assez d'accord.
C'est, parfois la lisière, c'est ça qui est assez passionnant. Et c'est, le film travaille cette lisière. De Niro, il fallait qu'on le dise, on y a réfléchi tous les deux, et je pense que beaucoup de gens l'ont dit, c'est son meilleur rôle du 21e siècle, peut-être c'est son meilleur rôle depuis Hit. Moi je le trouve très drôle, vraiment très convaincant.
Oui, je suis d'accord.
En fait, par exemple, c'est là où ça rejoint la mise en scène, la différence de jeu entre Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio, donc un couple quand même extrêmement étrange de cinéma. Enfin, jamais DiCaprio n'a été entiché d'un personnage comme ça dans un de ses films. Accouche de scènes extrêmement étonnantes, et je peux prendre pour exemple une scène à la fin du film, sans en dévoiler le contenu, qui est certes un simple champ contre champ, mais on filme d'un côté DiCaprio qui vraiment DiCapriote, si je puis dire, enfin vraiment le personnage torturé, le sourcil qui vacille, etc. Enfin vraiment beaucoup de voilà, les yeux qui rougissent, etc. Qui est censé voilà avouer quelque chose à Lily Gladstone. Contre-champ, Lily Gladstone, vraiment le visage le plus apaisé qu'on a jamais vu, toujours le même, celui qu'on avait découvert dans Certaines femmes de Kelly Richard.
Tout à fait.
Dans le plus beau segment du film. Enfin, c'est quand même une actrice qu'on a découvert dans un film magnifique. Et voilà, il s'est produit comme ça des choses. En miroir, que je trouve magnifique, et quand même, je pense qu'il faut qu'on termine bientôt parce que j'ai des messages. Enfin, on a notre cher réalisateur qui nous fait des petits signes de la main. La scène dont on essaye de ne pas parler, moi je la trouve quand même assez sublime. Et elle joue en fait, outre la question.
On peut dire sans la révéler simplement, outre la question que Scorsese transforme, on va dire, les cartons de fin explicites voilà. traditionnels en une espèce de petite séquence ludique.
Voilà. Et moi je la trouve extrêmement belle, et justement, peut-être effectivement, j'irai dans ton sens. Je la trouve peut-être mieux mise en scène et mieux incarnée que le reste du film, dans la façon dont l'espace est découpé, dont les plans se succèdent les uns aux autres. Et moi je dois dire que je ne savais pas que Scorsese avait ça en lui, quelque part, d'oser faire ce décadrage. D'ailleurs, c'est un peu un festival de décadrage. On se faisait cette réflexion. Il y a beaucoup de films comme ça qui ménagent une scène qui sortent un peu du récit. Et je dois dire que voilà, c'est ça. C'est moins la question du sujet, de la déférence, qu'une espèce effectivement de quelque chose de sentimental et qui rejoint, effectivement, je comprends ce qu'il disait dans son interview quand il parlait de Kurosawa, qui disait avoir compris quelque chose quand il réalisait ses derniers films. Je retrouve en fait une espèce d'émotion à la Rhapsody en août de Kurosawa, qui est un film extrêmement étrange que j'aime beaucoup dans la carrière de Kurosawa, et je sens ça dans le film qui effectivement a le défaut principal, tu l'as dit au début, mais je voulais quand même le dire également, de manquer peut-être de grosses scènes de ce que j'aime chez Scorsese dans les films que je préfère de lui, à savoir une situation qui va être dépliée pendant de longues minutes et qui va être tiré au cordeau et sublime. Il manque de ça, mais voilà, je trouve quand même que c'est un film assez puissant et en tout cas ça m'a fait un grand plaisir de le découvrir ici entre des fictions festivalières un peu ronron, un peu plus routinier, disons. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à demain pour une nouvelle bulle canoise.